Mardi Politique, en partenariat avec Libération et l'AFP.
Anissa El Jabri.
Bonsoir à tous, bienvenue dans Mardi Politique, l'émission du service politique d'RFI en partenariat avec Libération et l'AFP. Ce mardi, c'est un spécial européen. À un peu moins de deux semaines du scrutin, nous recevons deux invités. Dans la deuxième partie de cette émission, nous retrouverons Emmanuel Cosse, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Avec elle, nous parlerons bien sûr de ces derniers jours de campagne, mais aussi de la réforme territoriale. Mais maintenant, dans ce studio, nous retrouvons Clémentine Autain. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole d'Ensemble, c'est une des composantes du Front de Gauche. Et à mes côtés, pour vous interroger, Katel Prigent pour l'AFP et Lilian Alemania pour Libération. Bonsoir.
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 Alors avec vous aussi, bien sûr, on va revenir sur cette campagne des européennes. Mais avant, un mot sur la mobilisation pour les lycéennes enlevées au Nigeria par le mouvement terroriste Boko Haram. Il y avait deux rendez-vous aujourd'hui au Trocadéro à Paris. Un ce matin avec des célébrités, Carla Bruni, Valérie Trierweiler, des personnalités politiques. Et puis un autre rassemblement il y a une heure environ à l'appel d'associations féministes et d'organisations politiques. Alors vous n'y étiez pas, vous êtes sur le terrain en campagne pour les européennes. Mais juste votre sentiment, Najat Vallaud-Belkacem, la ministre des Droits des Femmes, a qualifié cet enlèvement de crime contre l'humanité. Qu'est-ce que vous pensez de ce qualificatif, vous ?
Il faudrait réfléchir de façon plus ample sur le qualificatif. Spontanément, je n'aurais pas eu cette formule. Ce qui se passe est extrêmement grave et je crois que la mobilisation a tardé. Et d'ailleurs, beaucoup de gens m'ont interrogé dans ma ville à Sevran sur le fait qu'il n'y avait pas une mobilisation d'ampleur sur ce qui paraissait dramatique et très inquiétant. Donc je trouve normal qu'il y ait une mobilisation. Dans le même temps, je suis tout autant préoccupée comment dire ? C'est-à-dire qu'il faut à la fois lutter contre les réseaux intégristes musulmans qui torturent des femmes, qui produisent toute une série de choses qui sont contre les libertés, contre la démocratie et contre l'égalité. Et dans le même temps, je suis inquiète de l'assimilation qu'on pourrait faire avec l'ensemble des musulmans. On est dans un contexte en France, en Occident, où je crois que le racisme prend la forme du rejet des musulmans. Donc c'est assez complexe. Cette mobilisation, elle est... Et il faut la tenir en tenant les deux bouts, c'est-à-dire lutter de façon très forte et très claire pour essayer de faire reculer l'intégrisme musulman de ce type et en l'occurrence pour avoir gain de cause sur ces jeunes femmes qui sont, la situation est quand même particulièrement grave. Et dans le même temps, je crois qu'il faut qu'on reste vigilant pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'amalgame et que nous soyons vent debout aussi contre tout ce qui pourrait exister d'actes anti-musulmans.
Qui fait ces amalgames, à quoi vous pensez exactement ?
Je pense au climat dans la société, je pense à rien là en soi. Je dis juste que parfois on a des mobilisations sélectives et nous savons que nous sommes dans un contexte qui est un contexte particulier et donc où il faut tenir les deux bouts. C'est juste ça que je dis. Ça n'enlève rien à la gravité de ce qui est fait, ça n'enlève rien au fait qu'il faut lutter contre tous les intégrismes, pas simplement l'intégrisme musulman. Et je suis aussi préoccupée des amalgames et de dire que tous les musulmans, évidemment, ne vivent pas en étant solidaires des actes intégristes à l'autre bout de la planète.
Un autre dossier international très très important qui nous occupe aussi beaucoup ici à RFI, ça concerne l'Ukraine. Ce week-end, les séparatistes de l'Est du pays ont donc réclamé le rattachement de leur territoire à la Russie. Est-ce que vous pensez aussi, comme le dit régulièrement Jean-Luc Mélenchon, qu'en Europe, on a une position un petit peu déséquilibrée sur ce dossier, qu'on est trop indulgent avec Kiev, trop dur avec Moscou, trop dur avec ces séparatistes ?
Je pense en effet que le récit en France ne correspond pas forcément en France, en Europe. Encore que, il faudrait voir, il faudrait prendre le temps de regarder comment dans chaque pays l'histoire est racontée. Mais depuis le début, je suis un peu gênée par le récit, moi je dis franchement. On a l'impression qu'il y a d'un côté ceux qui sont du côté de la liberté et donc promptes à se tourner vers l'Europe et les rétrogrades, les antidémocrates qui sont tournés vers la Russie. Moi j'ai le sentiment depuis le début que c'est un petit peu ça le récit. Il est plus complexe et voilà, je pense que de ce point de vue, Jean-Luc Mélenchon a raison.
Lilian Alemania.
En même temps, la manière de faire de Moscou, de Vladimir Poutine, d'envoyer une armée sans,
sans blason, affichage, sans affichage,
d'occuper un territoire, puis après de faire ces référendums.
Je ne partage pas la méthode et je ne me sens pas du tout du côté de Poutine ou en soutien à Poutine dans cette affaire. Je dis juste que, à l'inverse, dire que, enfin, nier ou en tout cas minorer ce qui, d'un côté, peut ressembler à quand même une extrême droite très dure ou parmi les plus libéraux, ceux qui sont d'accord avec l'idée d'ouvrir l'Ukraine, enfin, en tout cas, une partie à des marchés européen, c'est-à-dire finalement de rentrer dans l'Europe par la mauvaise porte, c'est-à-dire la porte d'une libéralisation qui pourrait être coûteuse pour les pays, me pose problème. Et que la question centrale pour moi en Ukraine, elle est d'abord comment on respecte le peuple, la décision du peuple et donc les élections possibles et une fois qu'elles ont lieu, le respect du vote. Et deuxièmement, comment une architecture internationale peut permettre de soutenir les peuples dans leur volonté de libération. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que l'architecture internationale n'existe pas. L'ONU est totalement impuissante et l'Europe, l'Union européenne, ne soyons pas naïfs, l'Union européenne joue aussi sa carte propre,
c'est-à-dire, faut
et qui n'est pas forcément celle qui est dans l'intérêt du peuple ukrainien.
C'est-à-dire
elle était quand même en train de négocier un marché. Elle a aussi, elle se comporte vis-à-vis de la Russie. On n'est pas dans un monde des bisounours. Et je crois que l'Union européenne pense aussi à ses propres intérêts avant de penser à l'intérêt du peuple ukrainien.
Mais l'Union européenne est divisée sur la question ukrainienne. Il n'y a pas de position de position officielle. On l'a bien vu quand il s'est agi de prendre.
Il n'y a pas que sur l'Ukraine. Il y a une difficulté à avoir une position européenne. C'est pas le seul sujet sur lequel il y a une difficulté à avoir une position européenne.
Oui.
Ça nous amène directement au sujet suivant. Donc, soit on s'aligne sur l'OTAN, c'est formidable, continuons à faire comme ça, soit on est embourbé dans les équilibres de la Seconde Guerre mondiale, tels que l'ONU, par exemple, qui repose sur des équilibres qui sont totalement obsolètes, et tout ça ne fonctionne pas, et c'est ça la réalité. Et la France, pour parler de la France dans cette affaire, je crois qu'elle n'est pas motrice pour imaginer une structure européenne, et plus largement une architecture mondiale, qui permette d'intervenir à bon escient dans ce type de conflit.
Vous pensez que François Hollande aurait dû, par exemple, comme lui reproche la droite, s'avancer davantage sur ce dossier, aller à Moscou, quand vous dites la France n'est pas moteur, c'est à ça que vous pensez ?
Non, je pense qu'elle n'est pas moteur parce qu'elle a peu de vision quand même sur le monde. Je n'entends pas de parole de la part de François Hollande pour dire quelque chose d'intéressant sur la marche du monde et l'organisation internationale telle qu'elle devrait être et comment elle peut aussi se sortir d'une logique qui est une logique qui est quand même très soumise aux enjeux financiers et qui ne permet pas de faire progresser l'idée de bien commun, la démocratie à travers le monde.
Venons-en directement au scrutin européen. On s'attend à une abstention record, encore supérieure au précédent scrutin. Comment vous expliquez ce désintérêt des électeurs pour les élections européennes ?
Elle me paraît assez évidente. On aurait voulu faire détester l'Europe aux Français et aux autres peuples. On s'y serait pas plus autrement. Je vous rappelle quand même qu'en 2005, il y a eu un vote sur le traité constitutionnel européen où les Français ont dit non à ce traité. Qu'ont fait les gouvernements par la suite ? Ils les ont avalisés. Comment voulez-vous que les Français se reconnaissent dans une élection qui, quelque part, quand elle a lieu, ne reconnaît pas leur vote ? Ça, c'est un premier problème. Le deuxième, il est lié, évidemment, à l'abstention grandissante à toutes les élections, particulièrement aux élections européennes, mais pas seulement. L'abstention monte. Pourquoi elle monte ? Parce qu'il y a un déficit de conflictualité politique. Parce que d'alternance en alternance, on a le sentiment que c'est la même politique. Et ça, c'est particulièrement vrai à l'échelle européenne. La mise en scène qui nous est faite aujourd'hui, vous avez vu, c'est de nous dire qu'un des enjeux, ce serait qu'il va falloir choisir entre Martin Schulz, social-démocrate, et Jean-Claude Juncker pour savoir lequel des deux va être président de la Commission européenne. C'est soi-disant l'enjeu de cette campagne électorale. Le 9 avril dernier, il y a eu un débat télévisé entre les deux hommes où l'un a dit, on ne sait même plus lequel, donc la rigueur est nécessaire pour regagner la confiance, et l'autre a dit, la discipline budgétaire est inévitable. Et au bout d'un moment, donc vous voyez, ils disent la même chose, et au bout d'un moment, il y en a un qui a lâché comme ça et qui a dit, je ne sais pas ce qui nous distingue. Et c'est bien le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qui les distingue.
Mais alors comment vous êtes censé justement incarner l'alternative à cela ? Comment ça se fait-il que vous n'arriviez pas à capter et à porter la colère, le mécontentement, le désintérêt que vous décriviez ? C'est censé être vous le débouché naturel ?
le débouché naturel. Oui, c'est une possibilité et il faut faire grandir cette envie de changer les rapports de force européens, de combattre l'austérité qui est à l'œuvre, de faire en sorte que l'Union européenne soit une instance qui soit une instance plus proche des peuples et moins soumise au monde de la finance. C'est ça que nous dénonçons et c'est ça que nous voulons mobiliser. Je pense que... Alors, vous êtes en train d'essayer de me faire analyser quelque chose mais qui ne marcherait pas alors qu'on est quand même à 10 jours du scrutin. Donc, faisons un petit peu attention.
Avec les sondages qui ne vous sont pas favorables, par exemple. On sent bien, puis on sent bien que la voie du Front de Gauche n'est pas...
L'objectif du Front de Gauche était de passer devant le PS. On est très loin pour l'instant.
Moi, je n'ai jamais pensé que nous étions, dans la situation actuelle, en passe d'être devant le Parti Socialiste. Un objectif ambitieux, qui est un objectif d'avenir. Je le partage dans la durée et je pense que les rapports de force sont en train de bouger à l'intérieur de la gauche et que d'ailleurs, ce qui s'est passé au Parti Socialiste avec les 41 socialistes qui n'ont pas voté le pacte de responsabilité, ce qui se passe aussi à Europe Écologie Les Verts, qui ne participent plus au gouvernement, sont des signes que quelque chose est en train de se produire dans la gauche. Alors, ça produit d'abord de la désespérance, c'est-à-dire le sentiment que ça fonctionne plus, qu'on ne sait plus par quelle boule prendre. La droitisation de l'ensemble de l'échiquier politique ne nous est pas favorable, il faut le dire franchement. Les médias ne nous aident pas, c'est une réalité. Le CSA vient encore de rendre ses comptes, je vous assure que c'est assez difficile de faire entendre notre voix dans les médias aujourd'hui. En tout cas, notre voix est bien moins entendue que le Front National, par exemple, qui grimpe. Donc on est dans un contexte qui est un contexte aussi d'atonie sociale. Et ça, je veux le dire, parce que les difficultés que rencontrent les syndicats, que rencontrent un certain nombre de mobilisations, créent de la désespérance. Et ça, ça date pas d'hier. C'est des dizaines d'années de néolibéralisme qui ont plombé l'issue des mobilisations sociales et qui créent là aussi une difficulté à être, à exprimer sa colère et à être entendu. Donc vous avez une situation globale qui est à la fois très difficile, difficile pour faire entendre notre voix. Et dans le même temps, il y a tous les ingrédients qui laissent à penser que ça peut basculer du côté d'une alternative à gauche, dont le Front de Gauche est un des leviers et un des leviers fondamentaux, parce que ça fait très longtemps que nous disons ce qui ne va pas en Europe. Et pour prendre par exemple Europe Écologie Les Verts, qui est aussi en campagne, mais qui de ce point de vue manque de cohérence. Il quitte le gouvernement en critiquant les politiques d'austérité. Mais elles sont aussi imposées par l'Union européenne. Et donc, il faut le dire à tous les échelons. Et c'est important que, à cette élection européenne, il y ait suffisamment d'électeurs qui confortent le score du Front de Gauche, parce que peut-être que les sondages ne sont pas aussi hauts que prévu, mais pour l'instant, nous apprêtons à un score qui est supérieur au score de la dernière élection européenne. Donc, c'est pas non plus... On serait en progrès si on en croit les sondages à l'heure actuelle.
Clémentine Autain, un de vos objectifs depuis 2 ans, 3 ans que vous martelez, c'est de réussir à contrer le Front National. On voit dans cette élection qui... ce qu'annoncent les sondages depuis des mois, 25%. Au Front de Gauche, il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'une des raisons de l'échec de la stratégie du Front de Gauche, c'est qu'il y a des divisions dans votre mouvement.
Vous avez déjà validé l'échec de la stratégie du Front de Gauche.
En tout cas, très clairement, vous n'êtes pas en mesure de concurrencer le Front National. Vous n'êtes pas encore à un score à 2%, c'est parce que montent les enquêtes
à deux chiffres.
À deux chiffres, pardon, vous avez raison. Alors qu'on donne le Front National entre 22 et 25%, on imagine difficilement dans les 10 jours que vous vous rapprochiez vraiment très très près. Au sein du Front de Gauche, il y a des élus qui disent des échecs du mouvement parce qu'on voudrait le voir grimper, voilà. Et dû à l'hyper-personnalisation incarnée par Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous en pensez ?
Bonne question. Je pense que la politique s'incarne et que Jean-Luc Mélenchon a été notre candidat à la présidentielle et qu'il a hissé le Front de Gauche à un score qui est un score substantiel. Vous savez, un score à deux chiffres, on en avait rêvé en 2007, on a eu trois candidatures, chacune ont fait des tout petits scores et on s'est quand même retrouvé à 11%, ce qui n'était pas négligeable. On avait rêvé de plus, il faut plus. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est d'être majoritaire à gauche et de réussir à porter à nouveau l'espoir parce que nous avons un gouvernement qui mène une politique qui n'a plus rien à voir avec la gauche, qui déçoit, qui n'obtient pas de résultats en matière d'amélioration des conditions de vie du plus grand nombre. Donc nous avons la responsabilité de rassembler plus largement que le Front de Gauche pour réussir ce pari et cette inversion de la tendance qui polarise à droite, à l'extrême droite, et qui laisse à penser qu'une issue catastrophique pour le pays, il faut quand même le dire, catastrophique pour le pays. Si l'issue aux crises que nous traversons, c'est le repli, l'autoritarisme, la xénophobie, nous allons dans le mur. Donc il faut qu'à gauche, il y ait... Je n'ai pas répondu du coup à la question sur l'hyperpersonnel. Donc il faut qu'une autre voie s'ouvre. Maintenant, cette voie, elle est forcément plurielle. Jean-Luc Mélenchon est une voix du Front de Gauche, il n'est pas la seule voix du Front de Gauche. Il y a le Parti communiste français, il y a le
Alors
nouveau mouvement ensemble,
seconde,
et il y a toutes celles et tous ceux...
Il faut qu'on écoute ce que dit ce matin sur l'antenne André Chassaigne, député communiste, membre du Front de Gauche.
Pour le moment, le Front de Gauche n'est pas apparu comme étant un mouvement qui porte une politique très claire et qui soit à même de concurrencer le Front National. Et c'est vrai que le populisme du Front National, c'est un véritable rouleau compresseur. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas faire de la politique avec une hyper personnalisation. Au contraire, nous, on est pour du collectif, on est pour de la démocratie citoyenne. Et il y a aussi une chose, c'est la stratégie. Est-ce que la stratégie, c'est front contre front, par exemple, avec le Parti Socialiste, en considérant que nous, on est la gauche vertueuse, la bonne gauche, et que le Parti Socialiste, il est perdu pour toujours, ou est-ce qu'on considère qu'on veut faire bouger l'ensemble de la gauche?
Clémentine Autain, je rappelle, vous êtes porte-parole d'ensemble, une des composantes du Front de Gauche. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et puis après, Lilian Alemania, si vous voulez préciser.
Je voulais vous demander, est-ce qu'il n'y a pas, on l'a entendu avec André Chassaigne, un problème de contradiction au sein du Front de Gauche? On prend, par exemple, l'euro. Jean-Luc Mélenchon, cette semaine, dit clairement que la sortie de l'euro, c'est quand et comment. C'est pas la position non plus de toutes les composantes du Front de Gauche sur
ça,
l'euro.
Ça, c'est clair, mais je connais pas de force politique large dans lesquelles il n'y ait pas des contradictions, des points de vue sur toute une série de questions qui ne soient pas différentes. Donc,
sur l'euro, c'est fondamental quand même à gauche.
Oui, c'est fondamental. Nous sommes arrêtés collectivement sur une stratégie, c'est quand même pas rien, une méthode qui consiste à dire « oui, nous voulons ». De l'Europe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas en rejet dans un repli où on se dit bah maintenant ça se passe qu'à l'échelle de la France et puis terminer l'Europe. En revanche, nous savons qu'il faut mener les rapports de force. Et ce que nous disons, c'est que la France n'est pas un pays anodin dans l'Europe. Si la France dit maintenant c'est la fin de la récré, nous on n'accepte pas l'austérité, le dogme budgétaire, le fait qu'on n'ait pas d'outils monétaires, qu'il n'y ait pas d'harmonisation sociale ni fiscale, etc. Et la France veut peser dans les rapports de force, alors elle peut trouver des alliés et être capable de changer la donne.
C'est ça la confrontation avec l'Allemagne, pour reprendre des mots qu'on entend aussi au Parti Socialiste.
Bien sûr, la confrontation avec l'Allemagne, et c'est ce qui fait une différence notoire avec ce qui est aujourd'hui la position du Parti Socialiste, où nous avons vu qu'à 15 jours de l'élection, le président de la République, qui se dit de gauche, est main dans la main avec Angela Merkel. Donc il n'affronte pas la politique allemande, il s'apprête à, au contraire, co-gérer l'Europe avec la droite allemande. Donc nous sommes en désaccord complet et nous disons qu'il y a la possibilité de changer le cours des choses et si ce n'est pas possible, il faudra qu'on dise stop. Moi je suis désolée, mais une Europe qui n'est pas capable de faire en sorte que le droit à l'avortement soit respecté dans tous les pays, mais qui vient nous empêcher de maintenir des services publics, je me dis que c'est une Europe qui marche sur la tête et que de ce point de vue, un président de la République française pourrait dire écoutez, moi je ne suis pas d'accord avec ça, je garde mes services publics et je me bats pour qu'il y ait un droit dans toute l'Europe à l'avortement qui soit garanti. Et la parole de la France, elle compte, et c'est ça que nous disons. Alors si à un moment donné, ça remet en cause, en effet, l'euro, enfin la façon dont on est dans l'Europe, peut-être que ça le remet en cause. Et le débat doit être ouvert, mais ce n'est pas le parti pris de départ du Front de Gauche. L'hyper-personnalisation, je veux revenir sur ce que disait André Chassaigne tout à l'heure, évidemment qu'il y a des difficultés. Et la première difficulté, je vais vous la dire franchement, c'est qu'au lendemain de la présidentielle et des législatives, l'erreur a été de ne pas structurer le Front de Gauche, de ne pas permettre à tous ses militants et sympathisants d'adhérer au Front de Gauche et d'avoir donc une force qui soit une force plus large, plus citoyenne, et qu'on ait finalement rabougri à un cartel d'organisation dans lequel le tête-à-tête entre Jean-Luc Mélenchon et le Parti communiste français, quelque part, nous fige et ne nous permet pas d'être en dynamique et d'être audible. C'est ça le cœur du problème, à mon avis, du Front de Gauche aujourd'hui. Et je pense que plus le score à l'élection européenne sera élevé, plus nous arriverons à surmonter ces problèmes en nous ouvrant, en nous élargissant et en étant capables de dire « voilà ici un point d'appui considérable pour une recomposition à gauche avec des écologistes qui sont insatisfaits, avec
voilà.
Des socialistes qui
on
ne veulent plus de cette
politique
gouvernementale. »
On a entendu votre appel à la mobilisation, Clémentine Autain. Je rappelle que vous êtes porte-parole d'ensemble, une des composantes du Front de Gauche. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dans quelques minutes, juste après les informations, nous retrouverons Emmanuel Cosse, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts.